Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Sénégal, au moins 16 morts et 22 blessés dans un accident de la route. Au moins 59 morts au Nigeria après l'explosion d'un camion-citerne. Présidentielle algérienne, le candidat islamiste Hassani dénonce fraude et mascarade suite à la victoire à 95% du président sortant. Au Cameroun, les inondations perturbent fortement la rentrée scolaire.
Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre sur pied? Par exemple, mettre des pirogues qui pourraient relier les villages inondés aux différents établissements. Ça, c'est des solutions qu'on peut mettre sur place et peuvent fonctionner parfaitement.
Ici, aux États-Unis, les Républicains ont publié un rapport critique sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Sénégal, une collision entre un bus et un camion a fait 16 morts et 22 blessés ce matin vers 6 heures sur la route nationale 3, près de la localité de Dangalma, dans le centre. Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement du président Faye avait promis une réponse forte mi-août. Le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, avait annoncé l'intensification des contrôles routiers et le renforcement des sanctions. Par ailleurs, au moins 9 personnes ont péri dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes, c'est ce qu'a indiqué la marine qui a lancé des recherches avec 3 navires et l'appui d'un avion de surveillance espagnol. Au Nigeria, au moins 59 personnes ont été tuées dans une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail dans la nuit de samedi à dimanche. Nous faisons le point avec Rosine Mounezero.
Ibrahim Hisseini, porte-parole de l'agence de gestion des urgences de l'État du Niger, a fait savoir lundi que le nombre de morts s'élève à 59 et que de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu de l'accident. Un camion-citerne chargé de carburant est entré en collision avec un camion-remorque chargé de voyageurs et de bétail, explique un communiqué de la NSEMA. La collision a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agué, dans l'état du Niger, dans le nord du Nigeria. 2 autres véhicules, une grue et une camionnette, ont aussi été impliqués dans l'accident et une 50aine de vaches ont été brûlées vives. Selon la Commission fédérale de la sécurité routière, plus de 5000 personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2023, contre près de 6500 l'année précédente. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ces chiffres ne prennent pas en compte les accidents non déclarés aux autorités. Elle estime ainsi à près de 40 000 les morts annuelles liées aux accidents de la route au Nigeria dans un rapport publié en 2023.
Toujours au Nigeria, l'un des principaux dirigeants syndicaux, Joe Ajaero, a été arrêté par la DSS, l'agence de sécurité intérieure. Le chef du NLC, le Nigeria Labour Congress, avait appelé le gouvernement à revenir sur la hausse des prix des carburants il y a quelques jours. Le porte-parole du NLC a dénoncé un acte d'intimidation éhonté et totalement injustifié au regard des lois du pays. En Côte d'Ivoire, une organisation de villageois de la zone de Tricro dans le centre-est demande aux producteurs belges de caoutchouc et huile de palme, SIAT, un dédommagement d'1 milliard de francs CFA pour de multiples atteintes à leurs droits, dont l'accaparement de terres. Cette demande d'indemnisation a été remise ce matin au siège du groupe en Belgique par des représentants de plusieurs ONG internationales. Les pluies diluviennes qui affectent le Tchad depuis le mois de juillet ont fait 341 morts et affecté près de 1,5 million de personnes, selon un bilan publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. L'OCHA précise que les 23 provinces du pays sont actuellement touchées et fait état de 164 000 maisons détruites, 259 000 hectares de champs détruits et 66 700 têtes de bétail emportées. Le gouvernement tchadien n'a pas publié à ce stade de bilan global des intempéries qui frappent le pays depuis plusieurs semaines. Au Kenya, les tests ADN pour identifier les 21 victimes de l'incendie d'une école la semaine dernière ont commencé. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national après ce drame qui a soulevé de vives critiques quant au respect des normes de sécurité dans les écoles. Les États-Unis ont demandé ce lundi une enquête indépendante, transparente et rapide sur le meurtre d'Ali Mohamed Kibao, membre de Chadema, le principal parti d'opposition de Tanzanie, retrouvé mort samedi dans la capitale économique Dar es Salaam. Eric Manirakiza.
Dans un communiqué publié sur X, l'ambassade américaine en Tanzanie a exprimé le soutien des États-Unis aux demandes d'une enquête indépendante, transparente et rapide sur ce meurtre. Le communiqué souligne que les assassinats et disparitions ainsi que les détentions arbitraires et autres abus visant à restreindre les droits civiques avant les élections n'ont pas leur place dans une démocratie. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a réagi à cette tragédie avec une grande tristesse, exigeant un rapport détaillé sur cet incident extrêmement grave. Le ministre de l'Intérieur, Hamad Massaouni, a promis une enquête rapide, assurant qu'il ne peut pas laisser cela impuni. Ali Mohamed Kibao a été enterré aujourd'hui dans la ville de Tanga, sur la côte nord, en présence de membres de l'opposition et de représentants du gouvernement. Sa mort fait suite à un enlèvement survenu vendredi par des hommes armés. Le pays doit tenir des élections locales le 27 novembre, puis présidentielles et législatives l'an prochain.
En Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un deuxième mandat avec un score record de près de 95% des voix. Le scrutin a été marqué par une désaffection persistante de l'électorat. Deux candidats, l'islamiste Abdelali Hassani et le socialiste Youssef Aouchiche, ont contesté ce lundi le taux de participation et le pourcentage de voix en leur faveur. Jean-Roger Bion.
L'affluence aux urnes était le véritable enjeu du vote de samedi, mais l'autorité électorale, ANIE, qui a crédité dimanche M. Tebboune de 94,65% des voix, n'a pu donner de nouveaux chiffres sur la participation, estimée la veille à 48%. C'est une victoire aux allures d'alerte, faute d'avoir conquis l'électorat des jeunes, qui représente plus de la moitié des 45 millions d'Algériens, a déclaré Hasni Abidi, analyste et directeur du centre d'études Serman à Genève. Les adversaires de M. Tebboune ont dénoncé dans un communiqué commun des irrégularités et contradictions dans les résultats annoncés par l'ANIE. Abdelmadjid Tebboune était donné grand favori du scrutin, bénéficiant de l'appui de 4 formations majeures, dont le Front de Libération Nationale, FLN, ex-parti unique. Avant le vote, Amnesty International a accusé le pouvoir d'étouffer l'espace civique avec des arrestations arbitraires et une tolérance zéro des voix dissidentes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les Républicains ont publié hier un rapport très critique sur le retrait militaire américain d'Afghanistan en 2021, mis en œuvre par le président démocrate Joe Biden. Il avait mis un terme à la plus longue guerre menée par les États-Unis depuis 2001. Yacouba Ouédraogo.
Dans ce document, les Républicains de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants estime que le président Joe Biden a échoué à limiter les conséquences prévisibles de ce retrait décidé par la précédente administration Trump. Les talibans se sont emparés de Kaboul le 15 août 2021. 10 jours après, un attentat suicide a tué 13 soldats américains et 170 Afghans dans l'aéroport de Kaboul, bondé de personnes tentant de fuir le pays. Dans leur rapport, les Républicains soulignent les inquiétudes exprimées par des responsables militaires qui estimaient nécessaire le maintien d'une présence de l'armée en Afghanistan. Selon eux, le choix de Biden de retirer les troupes n'était pas basé sur la situation sécuritaire ni sur l'accord de paix de Doha, encore moins sur les conseils de ses experts en sécurité nationale. Les démocrates affirment que ce rapport a été publié en vue de l'élection de novembre. Ce sujet pourrait ressortir demain mardi dans le premier débat télévisé entre la candidate démocrate Kamala Harris et le candidat républicain Donald Trump.
L'armée israélienne a ordonné aujourd'hui l'évacuation de plusieurs secteurs du nord-ouest de la bande de Gaza, où elle poursuit sans répit son offensive contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, après plus de 11 mois de guerre. Et puis le pape François a été réuni en début d'après-midi à Dili au Timor-Oriental pour la troisième étape de sa tournée marathon en Asie Pacifique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Alexandrine Polonion.
Le ministère kényan des Finances veut solliciter des suggestions du public sur une nouvelle législation visant à augmenter les recettes et à relever d'autres défis. A déclaré lundi le ministre des Finances John Mbadi après que des manifestants ont contraint le gouvernement à retirer sa loi de financement. Les Kenyans auront jusqu'au 20 septembre pour soumettre leur point de vue. En Afrique du Sud, la dette et le portefeuille de prêts de la Land Bank ont été réduits de plus de la moitié. Le directeur général de la banque a déclaré aux journalistes que sa dette était passée de plus de 45 milliards de rands au moment de la défaillance à 16 milliards de rands. La Land Bank a fait défaut sur sa dette en avril 2020, devenant ainsi la première grande entité publique sud-africaine à le faire. Au Nigeria, arrestation du président de la plus grande fédération syndicale du pays sur la base d'accusations qui n'ont pas encore été divulguées. L'arrestation de Joe Ajaero intervient quelques jours après qu'il a critiqué le gouvernement pour avoir augmenté le prix de l'essence de 39%, menaçant de lancer une grève si la décision n'était pas annulée. Les prix élevés des carburants ont été l'une des raisons des manifestations contre le coût de la vie au début du mois d'août.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
La course à la prochaine CAN Maroc 2025 se poursuit avec les rencontres de la deuxième journée.
Oui, après un début mitigé face au Burkina Faso avec un match nul, un but partout, le Sénégal s'est relancé en battant le Burundi 1-0 ce soir. À suivre toujours ce soir, Angola-Soudan, l'Éthiopie reçoit la République démocratique du Congo et le Maroc accueille le Lesotho. Cette deuxième journée a débuté hier avec le match remporté par la Tunisie en Gambie 2-1. Avec 6 points, les Aigles de Carthage s'envolent déjà en tête du groupe A devant la Gambie, les Comores et Madagascar.
Ces matchs de la deuxième journée se poursuivent demain, mardi.
Après sa nette victoire, 3-1 face au Lesotho, la République centrafricaine affronte le Gabon. Le Cameroun vise un deuxième succès face au Zimbabwe après sa victoire 1-0 contre la Namibie malgré le conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Les Lions indomptables seront en déplacement en Afrique du Sud pour affronter les Warriors. Un déplacement difficile attend aussi le Nigeria qui a bien débuté ses éliminatoires face au Bénin battu 3-0. Cette contre-performance béninoise n'enlève rien aux objectifs de départ du Guinée-Conakry, sélectionneur de l'équipe du Bénin.
On veut aller à la CAN. Le Bénin, on a raté 2 avant que j'arrive. Maintenant, il faut y aller. Celle-là, elle est très importante. On veut tous aller au Maroc et ce n'est pas parce que tu perds au Nigeria que c'est remis en cause.
Prochain match pour le Bénin et Guinée-Conakry, la réception à Abidjan de la Libye a accroché un but partout par le Rwanda qui reçoit de son côté le Nigeria.
Le Mali, lui, veut réagir en Iswatini après avoir été accroché à domicile par le Mozambique.
Un nul, un but partout qu'il faut vite oublier d'après le nouveau sélectionneur des Aigles, le Belge Tom Sanfit, qui veut vite corriger ce qui n'a pas marché avant ce déplacement en Iswatini.
On a donné une bonne performance. Il n'y a pas un joueur au pelouse qui pense qu'il est en vacances. Chaque joueur qui a joué aujourd'hui a fait tout pour le pays, pour le spectateur. On doit travailler, on doit réfléchir après ce match aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on n'a pas bien.
Tom Sanfit, le tout nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Pour finir, fin hier des Jeux paralympiques d'été à Paris.
Une apothéose riche en médailles pour l'Afrique, 6 au total, dont 3 en or, 2 au marathon, des 12 hommes et dames remportés respectivement par le Tunisien Wajdi Bouhili et la Marocaine Fatima Hizra Idriss, puis la 3e en para-haltérophilie avec la Nigériane Oluwafemi Ayo qui s'impose dans la catégorie de plus de 97 kilos. Un bon bilan pour le continent qui a engrangé un total de 63 médailles. L'Algérie vient en tête avec 11 médailles, 6 en or, 5 en bronze, suivi de la Tunisie et du Maroc.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Cameroun, de graves inondations compromettent la rentrée scolaire de milliers d'élèves dans la région de l'extrême nord. Selon le système des Nations Unies, plus de 160 000 personnes, dont des enfants, sont affectées par des pluies diluviennes dans 4 des 6 départements de l'extrême nord voisin avec le Tchad et le Nigeria. De fortes précipitations ont été enregistrées ces derniers jours dans cette partie sahélienne du pays. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tape.
La région de l'extrême nord a les pieds dans l'eau. La situation a des conséquences sur la rentrée scolaire dans les localités sinistrées, comme dans le village de Domo, d'où est originaire Jean-Claude Fort-Lamy, conseiller municipal à Yagoua.
Dans les zones rurales, l'effectivité dans les salles de classe seront difficiles parce que certaines écoles sont prises par les sinistrés pour casement. Les parents ne sont pas prêts pour que les enfants partent à l'école parce que aujourd'hui nous comptons 4 villages sur les 8 qui sont inondés. Comme chez moi par exemple, ceux qui sont à Domofoulou ne peuvent pas quitter de Domo pour venir à l'école principale de Domo.
Dans le département de Mayo-Danaï, Yagoua, la ville principale est coupée en deux. Selon les autorités locales en charge des enseignements secondaires et de l'éducation de base, près de 2000 élèves vont éprouver des difficultés à se rendre à l'école. Mamadou Boukar Alifa, président de l'Association pour le développement du Mayo-Danaï.
Si nous pensons que les inondations annoncées et vécues par tout le département du Mayo-Danaï constituent un obstacle, tout le monde va rester attendre que la saison arrive. La question c'est, même après les inondations, quel va être l'état des infrastructures d'accueil? Donc, il faut qu'on réfléchisse rapidement pour que nous nous élevions au-dessus de tout ça, pour pouvoir permettre aux enfants qui, dans cette partie du Cameroun, de se rattraper dès la rentrée.
Le gouvernement n'envisage pas de décaler la rentrée scolaire dans la région. Les élites ont eu recours aux jeunes volontaires pour transporter les élèves par pirogue vers leur établissement scolaire. Sanisana Vunsumna, ingénieur des mines et ressortissant du département du Mayo-Danaï.
On se dit, quelles sont les solutions que nous pouvons mettre sur pied? Par exemple, mettre des pirogues qui pourraient relier les villages inondés aux différents établissements. Ça, c'est des solutions qu'on peut mettre sur place et peuvent fonctionner parfaitement.
Jean-Claude Fort-Lamy, conseiller municipal de la ville de Yagoua, la solution des pirogues est limitée.
Les élèves sont nombreux. Comment les faire? Il faut multiplier le nombre de pirogues. Mais également, nous pensons que ceux qui ont les moyens, s'ils peuvent le faire pour faire traverser les enfants, peut-être pas les véhicules, seraient encore plus bien. Mais il faut penser pour le futur. Comment faire en sorte que cette eau soit bien utilisée, c'est-à-dire rentable, non seulement à la population, mais également comment faire de ça que ça devienne des opportunités pour la communauté.
La situation sanitaire inquiète aussi. Le docteur Pierre Laoussou est directeur de l'hôpital régional annexe de Yagoua.
La période des pluies est liée à l'apparition de certaines maladies dont dans la fréquentation, presque le tiers des patients que nous recevons souffrent du paludisme.
8600 maisons ont été détruites depuis le mois de juillet à la suite des pluies diluviennes dans la région de l'extrême nord. Le bilan dressé fin août par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Cameroun fait état de 7 morts. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. En République démocratique du Congo, une semaine après la rentrée scolaire, les enseignants de nombreuses écoles publiques maintiennent leur mouvement de grève. Les parents d'élèves s'insurgent contre cette mesure et appellent ces enseignants à faire preuve de patriotisme. Tel, c'est le cas chez les militaires au front. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Une semaine après l'ouverture officielle de l'année scolaire, les enseignants des nombreuses écoles publiques réclamant la hausse de leur salaire maintiennent leur mouvement de grève. Fidèle Biouma est enseignant et président d'une structure syndicale.
Nous avons eu assez de pourparlers avec le gouvernement, mais malheureusement, malgré la volonté des syndicalistes, le gouvernement est resté inerte à ce qui concerne la réalisation de tous les accords que nous avons faits dans les différentes assises. Et donc, les enseignants ces jours sont dans une situation très difficile et même ont décidé de rester à la maison jusqu'à ce que le gouvernement puisse améliorer leur situation salariale.
Dans la ville de Goma, par exemple, seules les écoles privées ont repris les cours depuis le 2 septembre. Mounja Odette, parent d'élèves, appelle au sens du patriotisme des enseignants grévistes en cette période où le pays est confronté à d'énormes défis sécuritaires.
Nos militaires souffrent beaucoup plus que même les enseignants. Mais ce sont ces derniers qui réclament chaque année une augmentation de salaire. Depuis plusieurs années maintenant, nos militaires passent leurs jours et nuits sur des lignes de combat. Et donc, les enseignants devraient imiter leur sens de patriotisme, mettre un peu d'eau dans leur vin et rentrer encadrer les enfants dans des écoles.
Les enseignants en grève font également allusion aux salaires élevés des parlementaires et membres du gouvernement congolais pour dénoncer ce qu'ils qualifie d'injustice salariale, une raison qui, selon le député honoraire Jimmy Penzo de la circonscription d'Emassimanimba dans la province du Kwilu, est fondée mais ne doit pas constituer un goulot d'étranglement.
Je sais que le gouvernement est en train de travailler nuit et jour pour répondre favorablement aux exigences, notamment du syndicat, qui demande au gouvernement qu'il puisse rehausser le salaire des enseignants à $500 ou carrément 1 500 000 francs. Congolais. Et je sais que cela est de facto pas impossible, mais il faut savoir que la rentrée a déjà débuté, que nous puissions réellement voir le bon côté des choses.
Depuis l'application de la mesure de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, le programme scolaire fait régulièrement face à des interruptions liées à des revendications salariales. Zanem Nitizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
La guerre entre Israël et le Hamas continue de faire des victimes, alors que des analystes préviennent que les souffrances ne cesseront pas à moins qu'un accord de cessez-le-feu ne soit conclu. Bien qu'une trêve semble toujours hors de portée, les États-Unis ont laissé entendre qu'une proposition de paix plus détaillée sera faite dans les prochains jours. Voici le reportage de Véronica Balderas Iglesias de la VOA. Le récit est de Jacques Aristide.
La sécurité a été renforcée dimanche à la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie après qu'un homme armé a ouvert le feu sur les forces israéliennes au point de passage du pont Allenby. Trois civils israéliens, de même que le tireur, ont été tués. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné l'attaque qui serait liée à la guerre entre Israël et le Hamas.
C'est une journée difficile. Un terroriste méprisable a assassiné de sang-froid trois de nos concitoyens sur le pont Allenby. Au nom du gouvernement, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes.
Les troupes israéliennes ont poursuivi leurs opérations contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza durant le week-end, tandis que les autorités sanitaires palestiniennes rapportent qu'au moins 40 939 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. À moins qu'un accord de cessez-le-feu ne soit conclu et mis en œuvre, les tourments des deux côtés devraient se poursuivre, prévient via Skype Rick Stoll, professeur émérite de sciences politiques à l'université Rice dans l'État du Texas.
Des gens continueront à se faire tuer. Je pense que les otages ne seront pas libérés. Je ne vois pas comment Israël pourrait vaincre le Hamas. Il ferait mieux d'essayer de parvenir à une sorte de règlement maintenant.
Un sentiment similaire a été exprimé samedi à Tel Aviv par les proches des personnes capturées lors de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, dans laquelle 1200 personnes ont été tuées. C'était la première fois que les familles des otages protestaient aux côtés des manifestants anti-gouvernementaux. le cousin d'Ifat Calderon est l'un des otages.
Si vous voulez faire changer les choses ici en Israël, nous devons sortir et crier « Arrêtez la guerre !» et pour un accord maintenant.
En tant que médiateur, les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour contribuer à instaurer une paix durable dans la région, estime le professeur Stoll.
Je ne pense pas que nous ayons une influence notable sur les parties concernées. Je crois qu'elles sont en train de faire ce qu'elles estiment être le mieux pour elles.
Le chef de la CIA, William Burns, a tout de même indiqué samedi qu'une proposition de cessez-le-feu plus détaillée serait faite dans les prochains jours.
Proche de Washington DC, la capitale des États-Unis, l'État de Virginie occidentale a été solidement démocrate pendant la majeure partie du XXe siècle. Mais aujourd'hui, c'est un bastion républicain qui a permis à l'ancien président Donald Trump de remporter des victoires écrasantes en 2016 et en 2020. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, s'est rendue à Berkeley Springs, en Virginie-Occidentale, pour voir comment se déroule l'année électorale. Récit Yacouba Ouedraogo.
Fin d'été dans une ville touristique de Virginie-Occidentale. Les familles profitent des vacances avant le retour à l'école et les températures plus fraîches. Les pensées se tournent vers le changement radical de l'élection présidentielle de Joe Biden à Kamala Harris. John Lynch est un électeur de Virginie-Occidentale.
Elle va attirer vers elle une grande partie du vote féminin, du vote des minorités, mais elle n'a aucune substance. Elle n'a rien à présenter, aucun bilan à présenter.
La Virginie-Occidentale a toujours voté pour l'ancien président Donald Trump, mais les électeurs s'inquiètent pour l'élection de 2024. Chanel Decroix est une électrice de Virginie-Occidentale.
Cela me rend nerveuse parce que je suis une partisane de Trump, mais je pense que tous ceux qui étaient un peu incertains vont maintenant opter pour Kamala.
Cet État rural joue un rôle prépondérant dans la politique nationale grâce à son seul élu démocrate, le sénateur Joe Manchin, qui est devenu indépendant au début de l'année. Il a joué un rôle clé dans l'adoption des textes législatifs majeurs pour l'administration Biden. Mais avec le départ à la retraite de Manchin cette année, les républicains sont presque certains de récupérer un siège au Sénat avec le populaire gouverneur Jim Justice dans la course. Marty Gihart fait partie de la direction républicaine du Congrès de Virginie-Occidentale.
Nous extrayons du charbon et le charbon a été attaqué et le gouverneur Justice possède des mines de charbon. Nous nous attendons donc à ce que cette industrie soit protégée.
De nombreux électeurs accusent les démocrates d'être responsables du déclin de l'industrie principale de la Virginie-Occidentale, l'extraction du charbon. Mais les démocrates de Virginie-Occidentale présents à la récente convention nationale du parti à Chicago tentent de changer cette perception. Troy Miller est un délégué démocrate de Virginie-Occidentale.
C'est directement dû au fait que les patrons du charbon ont automatisé les emplois et sont passés à l'exploitation à ciel ouvert plutôt qu'à l'exploitation souterraine. C'est une excuse facile pour blâmer les réglementations environnementales.
L'opposant démocrate du gouverneur Justice, Glenn Elliott, explique aux électeurs que la mainmise républicaine sur l'État n'a pas été bonne pour son économie ou sa croissance.
Nous devons encourager les petites entreprises comme cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le corps législatif de notre État ne cesse d'adopter des lois très restrictives, comme l'interdiction de l'avortement ou des lois anti-LGBTQ qui envoient aux jeunes le message suivant. Nous ne voulons pas de vous ici.
Mais dans cet état fortement pro-Trump, la plupart des électeurs rejettent la responsabilité des problèmes économiques sur Joe Biden et Kamala Harris.
Pourquoi voudriez-vous payer un dollar de plus pour l'essence? Pourquoi voudriez-vous payer vos courses 25% plus chères? Pourquoi voudriez-vous avoir un taux d'intérêt hypothécaire qui a doublé sous l'administration Biden et elle doit en prendre la responsabilité?
Dans un sondage réalisé à la fin du mois d'août par un organe de presse de Virginie-Occidentale, Trump devance Harris de 27 points.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.